Salut à tous, c'est Sweet Home Chicago, numéro 1114, ce samedi 4 septembre 2021. C'est l'émission de la reprise, c'est l'émission de la rentrée. C'est l'émission que j'aurais pas voulu faire parce que Patrick Verbeek nous a quittés le 22 août dernier. C'est l'émission spéciale Patrick Verbeek qui suit celle de Dan Zirotti, Moonshine Blues numéro 15, que vous avez forcément écouté sur Radio 666. On est ensemble de 13h à 15h avec en deuxième heure la rediffusion d'une émission qu'on avait pu faire ici en direct à 666 avec Jean-Christophe Panicaud et Patrick Verbeek présents dans le studio à l'occasion de la venue de Patrick et des Witch Doctors. À l'époque, c'était il y a 2 ans, c'était au Portobello à Caen. Et Patrick et Jean-Christophe avaient pu chanter ensemble, jouer ensemble. C'était le 6 juin 2019. On reviendra sur cette émission tout à l'heure. Et puis, après Baco et après Benoît, qui était invité par Dan, il y aura 2 autres invités dans cette émission en direct. Ce seront Leadfoot Rivet et Jacques Perrin qu'on aura au téléphone. Leadfoot Rivet, le musicien que vous connaissez, qu'on ne présente plus, et Jacques Perrin, que certains connaissent uniquement comme le créateur du magazine Soulbag, fondateur du magazine Soulbag en 1968, mais qui est bien plus que cela encore. On aura également une petite remarque, une petite réflexion enregistrée le 27 août dernier à l'occasion de Jazz sous les pommiers, signée Nico Wayne Toussaint dans une interview qui sera diffusée en intégralité très prochainement dans l'émission. C'est un extrait d'interview de quelques minutes consacré à Patrick Verbeek. Voilà, et ben, on commence tout de suite. Patrick Verbeek nous manque déjà, on le sait depuis pas mal de temps, mais on va se dire finalement de quoi je vais me plaindre, parce qu'on l'a connu ce monsieur.
Wow. 8 heures du mat dans mon appart, le soleil tape, j'ouvre un œil et je mate la fille d'en face qui se déplace. De quoi je vais me plaindre aujourd'hui? Un vrai petit déj, un bon breakfast, avec du café, du bacon, c'est un must. Un air de blues à la radio, ça me chatouille les neurones en stéréo. De quoi je vais me plaindre? De quoi je vais me plaindre?
Monsieur Patrick Verbeek, il y a tellement de choses, de belles choses à dire à propos de ce monsieur que, évidemment, on ne sera jamais tout à fait complétiste. Et puis, ce modeste hommage rendu ici dans Sweet Home Chicago et dans l'émission Moonshine Blues précédemment, ça ne suffira pas à combler, bien sûr, le manque. Mais ça servira, je pense, soit pour les gens qui ne connaissaient pas l'homme de scène, le bluesman, qui était Patrick Verbeek. Et puis soit, bien sûr, pour tous ceux qui l'ont connu, ses amis, ses musiciens, pour apporter un petit témoignage. Merci à toi, Jean-Christophe, d'être resté dans Sweet Home Chicago.
Merci à toi, Marco, ton invitation.
Toujours très heureux de te recevoir. Jean-Christophe Panucco, leader des Witch Doctors, et puis, on peut dire aussi, compagnon de route de Patrick Verbeek.
Ah oui, une virgule dans l'histoire immense de Patrick, mais c'est vrai qu'on a...
Mais quelle virgule ?
C'est vrai que ces 3-4 dernières années, on avait un contact assez étroit, et ces 2 dernières années, on a fait quelques concerts ensemble en Normandie. Je pense qu'il était content de revenir sur cette terre normande.
Évidemment.
Et on a eu la chance de vivre avec lui des concerts, des moments hors scène également, des séances de studio. Et puis, moi, j'ai eu la chance, après 25 ans de vénération, de rentrer un petit peu dans son cercle et d'être l'heureux destinataire de ses coups de fil, de ses SMS, de ses messages vocaux, et puis de toutes les extraordinaires attentions qu'il pouvait avoir pour les gens qu'il aimait, quoi. Mmh. Voilà.
On va pas reprendre toute la biographie, ça a été fait avec talent par Dan Zirotti tout à l'heure. Bon, il est né en 49 à Caen, tout le monde l'a compris. Et puis dès l'âge de 14 ans, il voit Memphis Slim sur scène au théâtre de Caen. Voilà, c'était la révélation. Ensuite, les différents groupes qu'il a pu avoir dans les années 60-70, toutes ces rencontres musicales. Et puis c'est surtout cette histoire d'amitié qui a perduré avec notamment Benoît Blueboy, avec Litfoot Rivet, qu'on va avoir au téléphone tout à l'heure, avec Jacques Perrin, avec Baco, qui était invité de Moonshine Blues. Enfin voilà, c'est tout un réseau effectivement qui a pu se tisser autour du talent et de l'homme qui était Patrick. Jean-Christophe, qu'est-ce que tu gardes toi de l'homme, non pas musicien, non pas showman, bête de scène, mais de l'homme tout simplement, Patrick Verbeek.
Je vais faire comme Benoît.
Alors, t'as pas le droit,
sans être très précis, parce que voilà, effectivement, il y a des choses qui
des choses privées,
des choses privées. Mais moi, ce que je retiens, c'est son extraordinaire fidélité et son attention, vraiment, pour toi. C'est-à-dire qu'il était, il a toujours parlé à tout le monde, absolument d'égal à égal. Il était extrêmement intéressé par ce que tu disais, ce que tu faisais. Et il n'oubliait jamais d'avoir une petite pensée pour toi, d'avoir un mot gentil, pour tes enfants, pour ta famille. Voilà. Il était extrêmement prévenant. Alors, il avait un côté grizzly adorable, effectivement, parce que de temps en temps, bon, il était un petit peu bougon. Mais à chaque fois qu'il était, et ça c'était très touchant, à chaque fois qu'il était un petit peu maladroit, il y avait toujours le petit mot d'excuse qui arrivait immédiatement derrière. Et il avait très peur de blesser les gens. Moi, j'ai rencontré un monsieur vraiment, vraiment adorable. Et puis, c'est vrai qu'on avait, des relations, je dirais pas filiales, c'est peut-être beaucoup dire, mais des vraies relations d'affection, en plus des relations musicales.
Oui, dû à la génération, vous avez une petite trentaine d'années d'écart, c'est ça ?
Oui, c'est ça. Hein ? C'est complètement ça.
Voilà. Et peut-être, je ne sais pas, un père adoptif, un transfert
Ces derniers temps, il disait que j'étais son fils spirituel, ce qui me gênait énormément. Mais bon, c'est vrai qu'un de ses fans les plus transis, ça c'était à peu près sûr. Et puis on a découvert aussi qu'on aimait les mêmes choses, c'est-à-dire qu'on est venu à la musique par Gene Vincent. Et voilà, et tu me chambres assez souvent sur mon côté un petit peu encyclopédiste, complétiste.
Je ne chambre jamais.
Patrick était exactement pareil.
Mais oui.
Patrick était exactement pareil. Il pouvait. Et y compris avec ses influences très variées, on parle toujours, on l'appelle Monsieur Blues, qui l'énervait beaucoup. Monsieur Blues, il aimait pas tellement ça. Mais il était beaucoup plus que le blues. Il était beaucoup plus que du blues. Il était Patrick Verbeek avec plein d'influences. Et il connaissait aussi bien la country que la chanson française. Les derniers temps, on discutait beaucoup de Gilbert Bécaud et d'une reprise qu'il voulait faire sur son nouvel album.
Canon.
Ouais, exactement, une version un peu swamp rock, et il avait une culture phénoménale.
Tu nous parleras tout à l'heure des projets qu'il avait, parce que quand un garçon arrive à un certain âge et est toujours porté par les projets, c'est tout ce qu'on peut souhaiter à quiconque sur Terre, c'est de continuer à vivre avec des projets. Donc forcément, le jour où on part, il y a certains projets qui n'aboutissent pas. On en parlera tout à l'heure. J'ai un peu la même question pour Dan Zirotti. Dan, toi qui as aussi un peu connu Patrick Verbeek, pas forcément en tant que musicienne avec lui, comme contrairement à
et non, pas
à
du tout d'ailleurs.
Mais par contre, qu'est-ce que tu conserves de la mémoire de cet homme, après avoir longuement épluché sa biographie aussi pour préparer ce Moonshine Blues?
Effectivement, c'était, je pense, quelqu'un de merveilleux. Je le sens comme ça. Moi, je l'ai côtoyé comme ça, mais seulement quelques fois. La dernière fois, quand même, c'était une fois très, très récente. On avait beaucoup apprécié sa façon d'être. Enfin, c'était quelqu'un, comment dirais-je, parfois où tout pouvait arriver. Il était peut-être imprévisible parfois. C'est pour ça que peut-être qu'il aimait aussi avoir des galères. Mais c'était quelqu'un de profondément humain. Et moi, quand je le voyais, j'aimais beaucoup son petit œil malicieux. Quand il vous regardait, il avait toujours cet œil malicieux.
Et un regard pénétrant d'un bleu profond.
Oui, voilà, d'un bleu profond aussi. Et c'est ça, c'est moi le souvenir que je regarderai, c'est ça. C'est ce monsieur avec sa casquette qui arrive et qui vous regarde un petit peu, un peu goguenard, un peu avec son œil malicieux. C'est ce, un peu de toute sa carrière, de toutes ses chansons. Voilà, c'est ça qui me restera de lui.
Selon toi, est-ce que, et je pose la même question à toi Dan et à toi Jean-Christophe, cette cérémonie au Père Lachaise mardi, c'était digne de lui ?
Oui, j'ai trouvé ça bouleversant et je trouve que c'était assez à l'image de ce que je connaissais de lui, moi, ouais. Vraiment.
Oui, il y avait sa musique, il y avait sa famille, il y avait ses amis, et puis c'est aussi cette histoire émouvante, savoureuse. Sur ce qu'il était, c'était très émouvant. Et puis en plus, moi, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est rien, mais en même temps, c'est tout. C'est quand on s'est assis, avant de s'asseoir, sur chaque chaise, on avait un pass. On avait un pass avec sa photo. Et voilà. Donc tous les gens ont pu repartir avec ce pass. Et ça, c'est un très beau cadeau que nous a fait dans la famille.
Et tu sais, tu posais la question de savoir ce que tu retenais de l'homme, mais ce qu'on pouvait retenir de l'homme, mais à la croisée d'un peu tout ça, de l'homme et de la musique, puisqu'on l'a connu sur les dernières années de sa vie, on l'a beaucoup bien connu sur les dernières années de sa vie, c'est aussi cette rage de vivre et ce courage extraordinaire, parce qu'il avait des difficultés pour se déplacer, effectivement, ça pouvait être compliqué, mais il était toujours prêt à sauter dans sa voiture, à faire des centaines de kilomètres pour venir faire un concert, pour aller faire un bon gueuleton, il avait vraiment un appétit de vivre qui était extra et qui était communicatif et puis qui nous faisait relativiser pas mal de choses quand même.
Ouais, effectivement. Ouais. On est ensemble réunis pour ce 1114e Sweet Home Chicago consacré à la mémoire de Patrick Verbeek avec vous deux, Dan Zirotti, Jean-Christophe Panico, il y a également Arnaud Didier qui est là, il y a Claire et Thierry Danglos qui sont présents, il y a Jacques Pixel, il y a Laurent Choubrac qui est en train d'arriver. On est, voilà, c'est la petite famille du blues normand, il en manque beaucoup, mais on a le plaisir de se retrouver tous ensemble. Et puis avec vous, auditeurs du 666, on va revenir sur le tout premier épisode de sa vie. C'était dans Bluesographie, on est en 2007, ça s'appelle le blues du bébé heureux.
Je suis né au printemps 1949. Avec une cuillère en argent, j'étais encore tout neuf. Assis dans mon berceau à l'ombre d'un pommier, je goûtais les joies d'un tout nouveau-né. J'avais déjà le blues du bébé heureux. Fut mon premier jardin. Et dans la famille, on était aux petits soins. Je grandissais paisible, tout était harmonie. Entre papa, maman, mes papis, mes mamies. J'avais déjà le blues du bébé heureux. Années plus tard, je partais pour l'école. Et vous pouvez me croire, je trouvais ça très drôle. Même au fond de la classe, j'apprenais très vite. J'avais de la mémoire et aucun mérite. J'avais encore le blues du petit mec heureux. c'était assez facile. Je jouais de la guitare, j'étais plutôt habile. Je les faisais craquer le dimanche après-midi. Quand on jouait au club de Mickey et Minnie, j'avais alors le blues du garçon heureux. Un peu plus tard, je suis devenu un homme. Il a fallu se battre pour défendre ma pomme. Un jour, le coup est parti un peu vite. J'en ai pris pour 10 ans et ma cellule est trop petite. Et j'ai toujours le blues de l'homme heureux. J'ai pour toujours le blues de l'homme heureux. Oui, j'aurai pour toujours le blues du bébé heureux.
Voilà, extrait de l'album Bluesographie de Patrick Verbeek. Patrick Verbeek qui est à l'honneur durant toute cette émission, numéro 1114. Si vous venez d'arriver, on est ensemble jusqu'à 15h autour de la mémoire de Patrick Verbeek, 1949-2021, avec des invités. On avait Dan Zirotti et Jean-Christophe Panico qui sont toujours là. Jean-Christophe Panico, on entend sa guitare. Laurent qui vient de s'installer. Ça va, Laurent? Laurent,
oui, oui, oui. Bonjour à toutes et à tous. Oui, ça va. Ça
très heureux de te retrouver ici.
Même moi aussi, très, très content de revenir.
Même si c'est dans des circonstances particulières. Oui. Mais rendre hommage à un garçon comme Patrick Verbeek, c'est le genre de choses qu'il fallait absolument faire. Et notamment auprès d'un de ceux qui l'ont très, très bien connu. Je veux parler de celui qui est au téléphone actuellement. Lidfoot Rivet, bonjour. Lidfoot.
Oui, bonjour Marc.
Comment vas-tu?
Bah écoute, je vais un peu mieux puisque j'ai eu quelques années de santé à peu près en même temps que Patrick, avec une conclusion moins dramatique, heureusement pour moi.
Oui.
D'ailleurs, on devait se retrouver au festival Bleu-Jean-Loire. Alors, ça fait quelques années qu'on s'était pas vu, je m'en faisais une joie avec Benoît Blueboy en plus, tous les trois,
voilà.
Les vieux de la vieille. Et puis du coup, on a été deux à faire Faubon, et puis lui, malheureusement, définitivement, voilà.
Ouais. Alain, tu es en train de te reposer, tu es dans le sud de la France, il fait beau là-bas, c'est...
Oui, je suis dans le sud de la France, là j'ai appris un petit peu de conduite, donc je suis à mon vieux 4x4 au sommet d'un des mamelons du Luberon, en Haute-Provence.
Est-ce qu'il explique qu'on ne s'est pas croisé mardi lors de cette cérémonie voilà, au Père Lachaise, en hommage à Patrick Verbeek, effectivement.
Je devais remonter plus chaud et puis je n'ai pas, malgré tout, la santé pour faire de longues distances. Hein, je suis à 900 bandes quasiment. Donc.
Oui, oui, oui. Alors, la première question de cette même interview qu'on va faire, j'ai envie de te demander, d'abord, comment est-ce que vous êtes rencontrés, Patrick Verbeek et toi, Lidfoot Rivet?
Eh ben, on s'est rencontrés en 1976, si mes mémoires ne font pas défaut. On s'est rencontrés par deux personnes. Un mec qui s'appelait Pierre Poitevin, qui était un type qui écrivait des articles de blues et de country dans différentes revues, qui habitait à Colombes, près de Paris. Et Patrick est venu s'installer à 50 mètres de chez lui, à Wynne-Barac. Et par lui, Pierre m'a dit, tiens, il y a Verbeek qui s'est installé là. Et puis en plus, il se trouvait que je connaissais Jacques Chalard, avec qui il jouait à l'époque, depuis le Goldsboro.
Oui.
À l'époque, c'est l'époque où Patrick et Jackie jouaient dans un groupe qu'ils avaient formé qui s'appelait Magnum.
Exact.
Voilà. Et puis donc, il nous a présenté.
Là, on est encore en 1975, c'est ça?
76. Mmh. Oui. Et puis bon, ça a bien collé tout de suite. En plus, moi, c'était un moment où j'en ai enregistré quelques titres pour RCA. Je cherchais un type à la fois pour m'accompagner dans un trio que j'avais. avec un banjoliste aussi, donc en acoustique, et puis je faisais des maisons des jeunes, des trucs comme ça, voilà.
Ouais.
Donc on a commencé à travailler comme ça avec Patrick, ça fait donc 45 ans quand même.
45 ans depuis la première collaboration, et puis vous vous êtes quitté, entre guillemets, mais retrouvé à maintes fois à maintes reprises, vous avez joué ensemble, croisé le fer sur scène, et puis également enregistré ensemble pendant toutes les décennies qui ont suivi.
Ben, on a enregistré déjà en 1977, on a enregistré 24 titres pour un album acoustique qu'Hercère m'a fait enregistrer pour me libérer de mes obligations. Un truc dont on n'a pas fait grand, on n'a quasiment rien fait, sauf deux titres que j'ai intégrés dans la compilation que j'ai fait paraître l'an dernier chez Dixie Freud.
Exactement.
Il y a un titre où Patrick joue, dont certains titres de Rocking Chair, parce qu'on a cofondé le groupe, Claude Langlois, le pédaliste et guitariste bien connu, Patrick et moi, dans 1979.
Voilà, 79, Rocking Chair.
Voilà, Rocking Chair. Donc là, il a joué d'ailleurs sur environ un tiers ou la moitié du premier album. Et puis, quelques simples avant. Et puis ensuite, il est parti enregistrer de ses propres ailes, puisque je crois que son premier album, ça doit dater de 80 ou 82.
81, exactement. Ouais,
bah, c'est ça, donc la même année où l'album de Rocking Chair est sorti.
Et tu lui rends hommage, effectivement, dans ce double album que tu as sorti l'an dernier chez Dixie Frog, dans lequel on retrouve, on va dire, une bonne quarantaine d'années de ta carrière. Et Patrick en a fait partie, bien naturellement. Et tu l'avais invité dans Saint Blues aussi, que tu avais enregistré en français et en anglais.
Absolument, oui. Il y a un titre où il joue, d'ailleurs c'est marrant, parce que c'est un titre où il y a Benoît, il y a lui et Larry Garner qui jouent et qui prennent chacun des tours et des chorus.
C'est pas ce truc-là par hasard?
Mais c'est exactement ce truc-là, oui.
T'as vu le jour dans une tour de la Courneuve, et depuis t'es accro à l'espoir pour un avenir béton chaud du à l'horizon. Alors pourquoi faire le son et le voir? Tu deviens fou, you said.
Devient fou, Youssef, dans lequel on retrouve, tu l'as dit, Larry Garner, Benoît Blueboy et Patrick Verbeek. Ça fait partie de cet album Saint Blues, qui avait une particularité à l'époque. On peut parler de l'anecdote de cet album Litfoot.
Oui, ben, tu veux dire qu'il y a eu deux versions.
Exactement,
une version,
voilà, c'est ça.
Une version en français, qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Les mix sont différents. Il y a deux, trois titres en français qui n'existent pas, dont l'équivalent n'existe pas sur la version anglaise.
Mmh. Et donc, voilà, question annexe. Je ne me souviens plus avoir eu l'occasion de te poser la question quand on avait parlé ensemble au téléphone lors de nos deux dernières interviews. La volonté de ça, c'était quoi? De faire le même album en français et en anglais, c'était pour multiplier les publics ou pour d'autres raisons qui m'échappent?
Ben, c'était surtout pour essayer de satisfaire en effet les différents publics. L'album en français concernant plutôt les Français, les Belges, les Suisses et les Québécois éventuellement, et puis l'album en anglais pour avoir accès à un public plus large en Europe en particulier, quoi. Mmh. Et tourner un peu ailleurs. Et c'était un peu décevant parce qu'en même temps, là, moi j'aime bien écrire en français, je le faisais beaucoup à l'époque et beaucoup moins même depuis quelques années. Enregistrer du blues en français, c'est toujours plus difficile pour faire sonner le français et puis dire des choses intéressantes en même temps. Donc, et malgré tout, le problème, c'est que cet album, il s'est beaucoup mieux vendu en anglais, y compris en France, parce que les amateurs de blues français, même s'ils ne comprennent pas les paroles, ils préfèrent en anglais souvent.
Faire sonner le blues en français, pour revenir à Patrick Verbeek et à tous les comparses qu'on peut évoquer, Benoît Blueboy, Bill Durham, Paul Persson, ça, c'est réservé à certains, dont toi, bien sûr, Litfoot Rivet, mais il y en a pour qui ça va, on va dire, ça swing moins bien, ça colle moins bien, c'est ça le message?
Oui, c'est difficile, parce que la langue française, c'est une langue qui a beaucoup moins qui a des sons beaucoup plus fermés que l'anglais, et puis qui a une plus grande complexité de comment dire, en français, t'es obligé d'allonger de plein de mots les uns derrière les autres, il va dire la même chose, alors qu'en anglais, avec trois mots, t'as tout raconté, quoi.
Ouais. Pour revenir à Patrick Verbeek, tu nous as expliqué, la première rencontre, et puis toutes ces collaborations que vous avez pu faire, et je voudrais savoir, t'es pas obligé de répondre d'ailleurs, qu'est-ce que tu as ressenti à l'annonce de sa disparition?
Ah ben moi j'ai été complètement sidéré, parce que aussi bien pour soi-même, on a l'impression qu'on va vivre toujours, et puis les gens qu'on connaît depuis longtemps, qui sont des amis de longue date, hein, même si on les a pas vus quelques années, on se dit je vais le revoir, et puis finalement on se rend compte comme un imbécile que le temps est passé, qu'on a perdu du temps, voilà.
Est-ce que tu penses que vous allez vous revoir un jour?
Bof, moi j'ai pas vraiment ce genre de croyance, la foi du charbonnier, tu sais, je crois en Dieu, je crois bois, quoi de faire, je suis plutôt athée, moi. Mais en laissant une porte ouverte, parce que bon, on sait pas trop ce qui se passe. Hein.
Effectivement, effectivement, mais ben, ça peut aussi rendre service de croire, hein, quelque part, je ne sais pas.
Je voudrais dire que Patrick, c'était d'une part un musicien exceptionnel dès les années 70, quand je l'ai connu. Ouais. Aussi bien au Dobro, quand il jouait vraiment du blues roots, que quand il jouait du rock blues à la Télécaster, c'était déjà un mec au-dessus du panier. Hein. Il n'y en avait pas beaucoup déjà, et lui, il était vraiment top. Ouais. Et puis aussi que c'était un personnage, un peu comme on dit en anglais, larger than life, c'est-à-dire qu'il y avait une dimension, c'était un mec qui existait un peu dans la démesure. Hein. Parce que Patrick, bon, je n'irais pas jusqu'à dire que c'était un Jerry Lee Lewis de la guitare, parce qu'il a fait quand même beaucoup moins de délire que Jerry Lee, mais il a participé beaucoup de ses travers. C'est pas dire du mal de ça, au contraire, je pense que pour quelqu'un qui vit une vie de bluesman et de rock'n'roller, pour arriver à bien exprimer ses sentiments, il faut avoir ce côté un peu déjanté par moments. Mmh. Et Patrick, il a tiré un peu sur le bambou et dans tous les coins, et puis il avait quand même un gros problème pendant longtemps avec l'alcool.
Tu penses comme moi qu'il en était bien conscient quand même?
Moi je pense qu'il en était conscient, mais qu'il est comme tous les gens qui sont accros, notamment avec l'alcool, il pouvait pas s'en défaire. Il a réussi à s'en défaire à deux reprises, mais il est retombé dedans souvent, quoi, c'est ça. Et alors bon, naturellement, ça a donné les lieux à des péripéties complètement délirantes. Quoi.
T'as des anecdotes à nous livrer, des choses que t'as vécues sur la route avec Patrick?
Oui, combien de fois c'est arrivé qu'on l'attend en séance et qu'il n'arrive pas, tout simplement parce que la veille il s'était mis minable, et puis une fois on l'attendait pour l'enregistrement d'un album de Truckers, hein, avec une bande de joyeux drilles de l'époque, hein, et puis on le voit pas venir, on l'attend, on finit par appeler chez lui, il est à l'hôpital.
Ouais.
Bon, d'accord. Bon, il est arrivé le surlendemain avec une bouteille de choum. Des pâtons chauds à la main, blanc comme un cachet d'aspirine, il a dit oui, j'ai un coma éthylique, il a fallu qu'on m'en ait dans le show.
Carrément. Je suis en ce moment dans le studio, bien sûr, de Radio 666, entouré de Dan Zirotier, de Jean-Christophe Panico, de Laurent Choubra qui nous a rejoint. Jean-Christophe et Laurent ont chaussé respectivement leur dobro avec bottleneck et guitare acoustique, et je crois qu'ils sont prêts à nous faire un petit truc en direct là. Mais je ne sais pas si tu veux rester avec nous encore 5 minutes, Alain.
Je reste tout le temps que tu voudras. Hein.
Ah bah écoute, voilà, on se fait encore 5 minutes avec Jean-Christophe. Je sais pas si vous avez prévu un truc précis.
Ouais,
ça sonne, hein, ça sonne.
On n'a rien prévu, hein, comme toujours. Hein, mais
Bah c'est vous, hein.
C'était l'indicatif qu'aimait bien jouer Patrick, ça.
Qu'elle m'aime, des fois qu'elle ne m'aime pas, des fois elle m'aime quand même, mais là elle le dit pas. Elle est pourtant parfois si tendre, j'ai du mal à comprendre cette fille si déroutante. Je vais bientôt prendre la tangente. Elle invite le facteur à boire un café. Moi je reste pendant des heures avec la porte fermée. Elle est pourtant parfois si tendre, j'ai du mal à comprendre cette fille si déroutante. Je vais bientôt prendre la tangente. Et Laurent Gaud. Elle oublie son porte-monnaie, revient d'un pas tranquille, elle est fringuée de la tête aux pieds. Elle est pourtant parfois si tendre, j'ai du mal à comprendre cette fille si déroutante. Je vais bientôt prendre la tangente. Cette fille si déroutante, je vais bientôt prendre la tangente. cette fille si déroutante, je vais bientôt prendre la tangente.
En direct live dans les studios de Triple 6, Jean-Christophe Adéco, chant et Dobro, Laurent Choubrac, guitare, bravo, bravo, bravo. Et toujours, il faut très bien téléphone.
Je suis toujours là, oui, ça sonnait, dans mon téléphone portable, ça sonnait comme un vrai 78 aujourd'hui.
Impeccable. Et en plus, à la bonne vitesse,
figure-toi. À la bonne vitesse.
78, c'est un chiffre que tu aimes bien, ça, Jean-Christophe, 78, hein.
Ouais, j'aime bien.
C'est un peu, c'est un peu ton année de naissance. Les feux trimés, encore 30 secondes ensemble. Oui. Si tu devais envoyer un petit message, là, maintenant, tout de suite, par la radio, à Patrick Verbeek, qu'est-ce que tu lui dirais?
Je lui dirais que c'est un salopard, il aurait pu m'attendre quand même qu'on se revoie au moins une fois.
Ah la vache.
Sacré Patrick. Voilà. Beaucoup de tendresse pour lui.
Ben, je crois que c'est un peu le cas de voilà, tout le monde, tous les gens qui ont été interviewés tout à l'heure dans Moonshine Blues, Baco, Benoît Blueboy. C'est ton cas, c'est le cas de Jean-Christophe, de Laurent, de Dan. Enfin, voilà, c'est un garçon qu'on adorait, même si on ne lui a pas tous dit. Tu as eu l'occasion de lui dire que tu l'aimais.
Non, c'est toujours des choses difficiles. Hein. Tu sais, même les gens les plus proches, c'est rarissime qu'on leur dise, hein, finalement. Mmh. Une espèce de pudeur idiote, mais bon, c'est vrai que quand on fait ça, on a l'impression de se foutre talon à poil. Que...
Ouais, c'est pas évident. Alain, les tout très belles, je voudrais te remercier d'avoir participé à cet hommage à Patrick Verbeek, animé par Jean-Christophe, je voulais dire.
Je serais ravi que tu fasses mon hommage. Là,
merci Jean-Claude.
On va attendre un peu.
T'as vu un peu comment on est nerveux finalement. Hein. Merci à toi Alain, à très bientôt.
Au revoir.
On va continuer nous avec Carte Blues, extrait de la discographie de Patrick Verbeek, bien sûr. Carte Blues. C'est l'album Funky français en 1996.
À la gare de Lyon, direction plein sud, avec un contrat en béton, au crédit de ma solitude, carte blues SNCF. J'ai pu acheter mon billet. Oh, je me suis pourtant fait blouser. Oh, 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 je l'avais pas composté. Je suis arrivé au festival. Et c'est là que ça fait mal. Trois pèlerins dans une salle de bal. Contre un chèque de carnaval. Carte blues. Au distributeur automatique de billets. J'ai payé cash, les lights et la sono. Quand je suis arrivé comme une fleur, avec un solde vertigineusement débiteur, ma carte blues, avec des ciseaux, il en a fait des tout petits morceaux. Et par-dessus le marché, interdit. 3 cartes dans la manche. Partout je dois montrer patte blanche. Ce petit rectangle de plastique bleu m'ouvre les portes d'un monde merveilleux. Carte blues, carte blues. Recomposez le col s'il vous plaît. Profiter pour écouler mon stock de faux billets.
Carte blues, on est toujours avec Patrick Verbeek au sein de ce 1114e Sweet Home Chicago. Carte blues, extrait de l'album Funky Français. On est en 1996. Nouvel invité au téléphone, Jacques Perrin. Bonjour Jacques.
Oui, bonjour Marc.
Alors, très heureux de t'avoir au bout du fil. Ça fait, j'ai regardé les archives, ça fait un bon moment que tu n'étais pas intervenu dans l'émission. On parlait de Soul Bag à l'époque, bizarrement.
Bizarrement. On en parle toujours, j'espère.
Mais on en parle toujours et on en parle chaque trimestre. Alors, présentons Jacques Perrin vite fait aux auditeurs, aux deux ou trois extraterrestres qui ne te connaissent pas encore. Tu as fondé le magazine Soul Bag en 1968 à l'âge de 21 ans.
C'est
ça. Et puis le magazine, on est en 2021, continue, tu n'en es plus le rédac-chef, mais tu fais partie bien sûr toujours de l'équipe rédactionnelle du magazine. Un magazine qu'on peut trouver en kiosque depuis pas mal de temps déjà. Et puis Soul Bag, tout comme toi d'ailleurs, vous avez une histoire commune avec Patrick Verbeek. Patrick Verbeek, c'est quelqu'un de particulier dans le paysage blues français. C'était quelqu'un, j'ai du mal à dire c'était.
Oui, mais forcément, je veux dire, enfin, la scène blues française, elle est née avec des musiciens comme Benoît, comme Patrick, bien après pas personne. Je veux dire, sont vraiment les pionniers de cette scène blues française. Je veux dire, auparavant, il n'était pas question de blues en France. Hein. Donc vraiment, il est à la source.
Voilà, à la source du blues en France, et c'est quelque chose que très vite Soul Bag avait comprise. Je me souviens, c'est pas difficile puisque c'est passé dans le fil d'actu il y a pas très longtemps, d'un papier datant de 1979 qui parlait de Patrick Verbeek. C'était la toute première fois.
Oui, c'est ça. Alors bon, en plus, je suis content que ce papier soit ressorti parce que Soul Bag a fait souvent figure de journal un petit peu replié sur les bases, sur les Américains uniquement. Donc Soul Bag est né en 69, mais donc en 79 il y a eu un premier papier sur Patrick Verbeek qui n'avait pas encore sorti d'album. Son premier album est sorti 3 ans après, mais déjà il y avait un papier sur lui, de même façon que à cette époque-là on pouvait parler de Ronnie Earl ou de musiciens comme ça. Je veux dire, donc la réputation de puriste de Soul Bag est souvent malvenue.
À mon avis, cette réputation, elle vient aussi du fait qu'aucun musicien français n'a fait la couverture de Soul Bag.
À ce jour, oui, peut-être.
Ça doit être ça. Non, mais c'est pas une critique du tout.
Attention,
ce que je veux dire, c'est que
voilà. Engager une conversation là-dessus.
Ah non, on va pas se lancer sur ce terrain-là. De toute façon, voilà. Dans Sweet Home Chicago, je peux te dire que tout le monde est le bienvenu, que ce soit des gens qui n'aiment que le blues ou des gens qui aiment toute la musique qui existe. Donc voilà, on est bien d'accord. Par contre, c'est vrai que ça a peut-être été mal compris. Je sais pas. Enfin, en tout cas, Soul Bag va toujours aux sources du blues, qui se trouve effectivement aux États-Unis, mais n'a jamais négligé le blues français pour autant. Par exemple, ce sont les chroniques de Christophe Moreau qui peuvent le prouver chaque trimestre.
Bien sûr, bien sûr.
Et puis d'autres chroniqueurs. Quel souvenir est-ce que tu as, Jacques, du Patrick Verbeek que tu as connu au tout début, la première fois que vous vous êtes rencontrés?
Eh bien, c'est curieux parce que j'ai écouté Alain Rivette tout à l'heure, ouais. Et j'ai exactement la même approche, le même souvenir. C'est que moi aussi j'ai rencontré Patrick Verbeek chez Pierre Poitevin. Pierre Poitevin, il existe toujours, il est bien vivant. Mais à l'époque, il écrivait dans Soul Bag et il collaborait beaucoup à la maquette aussi. Il nous aidait beaucoup pour la maquette.
Et c'est lui qui est l'auteur de ce fameux papier de 79. Hein.
Absolument, parce qu'il se trouve que Pierre Poitevin avait un pavillon à Colombes et le jardin de son pavillon jouxtait avec celui de Patrick Verbeek. Tout simplement. Et ce copain, Pierre, en plus, avait aménagé sa cave en une espèce de pièce de répétition. Il y avait une batterie, il y avait un piano, il y avait un ampli, guitare, etc. Donc c'était un vrai régal. Et donc, moi, je me souviens de soirées chez Pierre Poitevin, de repas bien arrosés, avec les gamins qui couraient dans le jardin, dont Steve, bien sûr. Et voilà, que c'est comme ça que j'ai connu Patrick. Et donc, on a échangé, on avait plein de points communs, Gene Vincent notamment, pour moi aussi, c'était une pierre angulaire. Et puis le blues, surtout, bien sûr, le blues. Voilà.
Tu évoquais Steve Verbeck, qui a fait la carrière d'harmoniciste chanteur que l'on connaît, qui, je crois, s'est un petit peu retiré de la musique à présent. Steve, que tu as connu tout petit, il est né en 76, hein, je crois.
À ce moment-là, oui, enfin, il n'était pas question de d'harmonica, de blues, etc. Il s'agissait surtout de cavaler après un ballon ou des choses comme ça. Oui.
Voilà. Tiens, allez, on va se faire un petit truc là. Séquence nostalgie.
Ah, voilà,
Gene Vincent, qui était l'une des idoles de Patrick Verbeck, qui nous a quittés en 1971. Est-ce que toi, tu as eu l'occasion de le voir sur scène ?
Gene Vincent ? Oui, bien sûr. À sa première apparition en France, c'était, alors les dates, je sais pas, mais c'était au début des...
Fin des années 60 ?
63, 64.
Et début des années 60.
Ouais. Ah oui, au Théâtre de l'Étoile, un truc qui n'existe plus.
Jean-Christophe, tu t'en souviens de ça ? Jean-Christophe Panico, il est à côté.
C'était sous l'égide de la revue Discours Revue, qui a beaucoup fait pour le rock. Et voilà, donc j'ai vu Gene Vincent la première fois. Et ensuite, je l'ai revu plein de fois, bien sûr.
Comme tant d'autres, effectivement. Et ensuite, 5 ans après, quand tu as créé Soulbag, Patrick Verbeck, voilà, même génération que toi, Jacques, je crois. Vous avez rencontré dans plein de concerts.
Il était un tout petit peu plus jeune que moi. Oui, ouais. Bah oui, forcément. Je veux dire, des concerts, il n'y en avait pas tant que ça, d'ailleurs. Donc
forcément, vous vous êtes croisés très, très rapidement.
Oui,
alors,
oui.
Par rapport à Soulbag, je me souviens, tu vas te rappeler de l'année mieux que moi, il y a eu Banyo Blues Festival, je crois que c'était à partir de 69, c'est ça ?
Oui.
Chicago Blues Festival, et puis la soirée blues de Banyo organisée par vous, les comparses de Soulbag. Patrick Verbeck a fait partie de l'affiche à un moment donné.
Ah bah forcément, hein, donc à partir de ce premier concert de 69 avec John Newker notamment et Lowell Fulson quand même. La formule a pris de l'ampleur, elle s'est étoffée. Au début, c'était simplement le concert du Chicago Blues Festival, et puis ensuite on a étoffé en ayant plusieurs plateaux. Et donc fin des années 80, début des années 90, il y avait trois plateaux qui se succédaient pour de cette nuit du blues, et il y avait toujours un plateau français, un groupe français, voilà, donc que l'on mettait à l'honneur. Et en 91, on a donné une carte blanche à Patrick Verbeck.
Oui, on s'est perdu le téléphone.
Il avait son
si, c'est bon, voilà.
Il avait un budget. Et à lui de l'utiliser au mieux selon ses désirs. Et donc là, Patrick s'est fait, je suppose, plaisir, mais il nous a fait à nous aussi un grand plaisir en invitant une espèce de section d'harmonicistes. Donc il y a pas une section de cuivre, mais d'harmonicistes. Il y avait trois harmonies. Il y avait Baco, bien sûr, qui était son harmoniciste attitré. Il y avait Benoît, forcément, et il y avait Vincent Buchet qui jouait des riffs, si tu veux, derrière Patrick, et il avait aussi invité Bernard Allison. Voilà
c'est le genre de choses qui fait rêver. C'était le début de carrière de Bernard Allison.
Et donc, quand on connaît la générosité de Patrick, il devait faire une heure et demie, il a fait deux heures.
Bien sûr, bien sûr. Et tu as également des souvenirs de Patrick Verbeck, rédacteur. Il a, après son aventure radiophonique à Europe 1, il a fait des papiers pour ce
bac. Après, c'est pendant.
D'accord.
Oui, pendant. Donc il avait cette émission qu'a évoqué Jean-Christophe tout à l'heure avec beaucoup de véracité. Et c'était exactement ça. C'était une émission très importante qui a vraiment fédéré un nouveau public pour le blues.
Et qui a mis plein de gens le blues à l'étrier, hein, effectivement.
Ouais, ouais, ouais. Et donc, ça, ouais, ça, c'était l'intelligence d'Europe 1 à l'époque. Je crois que Franck Thénault était redevenu le patron de la station pour un temps. Et donc, il avait remis à l'antenne Pour ceux qui aiment le jazz, et qui était présenté par Jean-Michel Proust. Et puis, il avait demandé à Patrick de faire cette émission. Et là, Patrick a eu le génie, je trouve, vraiment, de présenter cette émission, je veux dire, non pas en intervieweur, en blues-disque ou quelque chose comme ça, mais vraiment en musicien. Oui. Il était d'égal à égal avec ses invités. Donc lui jouait, chantait, et il les faisait jouer et chanter. C'était vraiment formidable, quoi. C'était vraiment une sorte de révolution. Quel dommage que ça n'a pas perduré. Et donc moi, pendant tout de suite, je me suis dit, c'est dommage, parce que il y a des anecdotes autour de cette émission.
Ah bah si tu peux nous en livrer deux ou trois, c'est un plaisir.
Non mais attends, c'est pas moi qui vais les livrer.
Mais en tant qu'auditeur, tu te souviens de certaines choses un peu croustillantes, forcément.
Non, mais justement, les anecdotes qui m'intéressaient, ou qui intéressaient le magazine, c'était celles qui étaient hors micro, si tu veux. Et donc, c'est pour ça que j'ai proposé à Patrick d'avoir une rubrique où il raconterait les coulisses de son émission. Mmh, voilà. Et donc, parce que dans son émission, tout le monde est passé. Je veux dire, enfin, tous les musiciens de passage en France sont passés par son micro. Bon, Luther Allison, le tout premier qu'il vénérait vraiment. Et puis, je sais pas, Kemo, Coco Taylor est passé, Lonnie Brooks, Kenny Neal, John Mayall. Enfin, tous les gens qui étaient... la scène blues était quand même un peu plus
fournie que maintenant, peut-être,
oui, ouais. Et luxuriante que maintenant, et ouais. donc tout le monde passait par son micro, et je pense que tout le monde vivait là une expérience particulière. Je veux dire, Joe Walker, tout le monde a fait des choses formidables.
Jean-Christophe, qui est en face de moi, opine du chef depuis 5 bonnes minutes, n'est-ce pas, Jean-Claude? Et donc, voilà, on rappelle quand même que ça a été aussi la possibilité pour lui, cet artiste canet qui est en face de moi, là, qui a son dobro dans la main, qui est prêt à nous faire de quoi je vais me plaindre jusqu'à 2h du matin. Tu penses, Jacques, que ce genre d'émission, dans le paysage radiophonique de 2021, pourrait encore avoir lieu sur une grande antenne?
Ah, ça c'est pas moi, enfin, j'aimerais tant, ouais. parce que, enfin, je suis sûr que oui, parce que le blues, s'il est un petit peu en déshérence actuellement, c'est parce qu'il est négligé par ces médias-là.
Mmh. Les grands médias, tu penses que le blues a besoin des grands médias?
Bien sûr, parce que bon, c'est vrai que Patrick, c'est pas le premier qui a fait une émission de blues, mais c'est le premier qui a une émission de blues sur une grande chaîne généraliste, et qui en plus a su lui apporter quelque chose de nouveau, tu vois, vraiment. Alors,
effectivement, un concept tout à fait unique. Hein. Tu entends derrière?
Oui. Eh bien, voilà.
Ça, c'est pas Patrick Verlec, c'est Jean-Christophe Palico, il est en live, là.
En live. Et en slide.
Exactement.
Bravo.
Jacques, si tu devais garder une image de Patrick Verbeek, un mot, une parole, un geste, une chanson, qu'est-ce qui resterait dans ton cœur et dans ton esprit?
Des moments de partage, justement à Bagneux, par exemple, je me souviens, bon, il était passé, mais chaque année, quasiment, enfin, quand son travail lui permettait, il venait assister au concert, et ouais, je me rappelle plusieurs fois, en coulisses, enfin, sur le côté de la scène, on assistait tous les deux au concert du Chicago Blues Festival, et on prenait un pied terrible. Et ce dont je me rappelle aussi qui n'a pas été évoqué, bon, on a parlé de l'homme généreux, le passeur, le pédagogue, le raconteur d'histoire, mais c'était aussi un très bon écrivain, parce que les papiers qu'il a passés dans son bag, je n'ai jamais eu à les corriger. Ça arrive quelquefois avec certains collaborateurs où il faut revoir peut-être une formule, corriger des fautes d'orthographe ou des fautes de style. Avec Patrick, jamais le moindre problème. Il m'a porté sa disquette à la boutique. J'étais disquaire à l'époque.
Oui, chez Boogie et Levallois.
Voilà, c'est ça.
Oui.
Et donc, il m'a porté sa disquette. Je mettais ensuite... oui, parce qu'il n'y avait pas de modem, il n'y avait rien. donc, c'était une disquette. Et... c'était bon, ouais, c'était calibré en volume, et c'était parfait pour la publication. Et ensuite, je pense, c'est dommage qu'il n'ait pas plus écrit, parce qu'il avait un véritable talent pour ça. Il a écrit aussi dans un canard de guitare, je sais plus lequel, mais qui était vraiment très bien. Et puis on n'a pas parlé. Il a coécrit une biographie d'Eric Clapton aussi.
Mais oui, on a évoqué ça tout à l'heure. Jean-Christophe, tu as le nom du magazine en tête?
C'est Guitare Acoustique. Ouais.
C'est possible.
Ouais, c'est ça. Voilà. Ouais.
Guitare Acoustique. Très bien. Merci Jacques d'être intervenu dans cette 1114e émission consacrée à Patrick Verbeek. Je souhaite bien sûr longue vie à Soulbag.
Hein, je dis ça magnifiquement, cher ami.
Non, enfin, auquel je collabore et pour lequel je continue à avoir une vénération, du moins pour certains de ses rédacteurs. Effectivement, magazine qui existe depuis 1968, dans lequel tu t'impliques à fond depuis toutes ces années. Ancien banquier, ancien disquaire et toujours passionné de blues, Jacques.
Absolument, et toutes les musiques afro-américaines, ouais.
Merci, à très bientôt.
Salut.
Merci, Jacques. Ça s'appelle N'arrête pas de rêver. Et c'est signé, bien sûr, Patrick Verbeek, c'est dans Écho d'Acadie. Merci, Jacques.
C'est un bateau qui passe. Oui, c'est la nef. Des fous sous le ciel qui menace les grands torrents de boue.
C'est du blues qui se cache comme on cache les loups.
Cet extrait de l'album Écho d'Acadie, enregistré pour le compte du label Dixie Frog, auquel Patrick Verbeek était très attaché, enregistré entre mai 2002 et janvier 2004. Et ce titre-là, partagé avec la chanteuse Karina Fournier, N'arrête pas de rêver. Il nous reste quelques minutes au cours de cette première heure de Sweet Home Chicago. On va profiter d'une disponibilité de Nico Wendt Toussaint. Voilà, Nico, elle démarre un petit peu vite l'interview. Nico Wendt Toussaint, qui était présent le 27 août dernier au Festival Jazz Sous les Pommiers, et à qui j'ai posé plein de questions qu'on écoutera très prochainement dans l'émission, mais une par rapport à Patrick Verbeek.
Nico, on va terminer peut-être sur une note un peu moins gaie. Un autre grand bluesman, on va dire père fondateur du blues en France, et également homme de radio, vient de nous quitter, Patrick Verbeek. Qu'est-ce que tu as ressenti à l'annonce de cette disparition?
C'est un très bon copain qui m'a envoyé un message, alors même que l'information n'était encore sur aucun réseau. Mmh. Et comme toujours en ce moment, quand des gens meurent, avec le résultat des réseaux sociaux, on a des avalanches de témoignages. Et ça donne dans le mielleux. Et chacun y va de son histoire. Et je trouve ça lourd. Parce que Patrick Verbeek, je pense pas que beaucoup de gens le considéraient comme une légende au moment où il était vivant. La mort, en ce moment, avec les réseaux, a aussi cette faculté qu'elle donne un écho surdimensionné à la personne. Moi, Patrick Verbeek, j'ai eu je l'ai écouté et j'ai un souvenir de radio que quand je me suis retrouvé à faire de la radio, j'ai pensé à lui. Et ça, c'est vrai, je me souviens un jour, je rentrais chez moi un soir et il passe Taj Mahal et c'était Maman, I need your love and ever avec Bonnie Raitt. Et je sais, alors la chanson, il la joue en deux fois dans l'original. Je sais pas si Patrick, moi, dans mon esprit, de ce que j'ai entendu, il a dit « C'est tellement bon, on se le remet une deuxième fois. » Et je me suis dit « Putain, mais c'est énorme !» Le mec, en fait, il a généralement, à la radio, on entend une chanson une fois. Lui, il a le droit et il nous fait partager son plaisir, quoi. Et la chanson repart. Et donc, ça a été un souvenir que je regarderai à vie de radio et de sentiment de spontanéité. Et ensuite, quand il a pu Europe 1, il a eu une web radio à Paris et il a eu la gentillesse de m'accueillir et de me faire un interview. À sa façon, j'ai pas forcément apprécié, il jouait un riff un peu la Hodge. Uchi Kuchiman, et je vais faire une bio, me présenter sur ce riff-là. Bon, voilà, c'était un format qu'il avait construit et... Voilà, mais
ça te convenait pas forcément.
Oui, ça me convenait pas forcément, mais c'est un mec qui a vraiment toujours été le peu de fois qu'on s'est croisé, qu'on s'est très respectueux, très ouvert. Une fois, je suis allé le voir, il était avec Souffolé au Méridien, et il m'a appelé sur scène pour jouer avec eux. Tu vois, c'est vraiment extrêmement généreux, et donc là, voilà, j'ai rien à dire. Mais par contre, c'est vrai que je n'ai pas cultivé l'écoute de Patrick Verbeek, de ses chansons. Et c'est à sa mort que j'ai cherché des chansons comme ça pour voir. Et j'ai trouvé Blues in My Soul, qui est un peu autobiographique. Et je me suis dit, tiens, c'est intéressant. Et puis voilà, après. Mais ça me surprend un peu, cette avalanche. Voilà, je trouve un peu...
Je pense qu'il faudrait écouter l'album Bluesographie, à mon avis, Nico.
Ouais.
Ouais, c'est un truc avec le blues du bébé heureux, enfin, ouais.
Ok.
Toute sa vie, quoi. Ouais.
Ouais.
Ça fait probablement partie. Enfin, Patrick Verbeek fait probablement partie des géniteurs du blues ici en France, aux côtés des gens comme, on va dire, les quatre mousquetaires, Benoît Blueboy, Bill Durham, Paul Persson. Est-ce que tu as l'impression, toi, en tant que musicien de la génération suivante, tu leur dois quelque chose, ou est-ce que tu as fait ton sillon de ton côté?
Alors c'est aussi peut-être ça explique aussi peut-être mon détachement par rapport à l'œuvre de Patrick Verbeek. C'est que moi, je n'ai jamais découvert ces artistes à part Paul Persson, mais Benoît Blueboy et Patrick Verbeek, c'est beaucoup plus tard. Mon père connaissait Bill Durham, il l'avait enregistré d'ailleurs dans les années 80. Bill Durham est passé à la maison voir mes parents. Il y avait une histoire ancienne, mais Bill Durham, après, il était connu pour Babylon, tu déconnes. Mmh. Moi, c'était pas du blues. J'ai jamais associé ça à du blues. Et ce n'est que en réécoutant un enregistrement d'un festival que mes parents avaient produit à Lambesque ou à la Taverne, 70-71, où il y a une chanson de Comeback Baby à la 12 cordes, et je me dis, mais qui c'est ce mec? Et en fait, c'est Bill Durham. Et là, j'hallucine, parce que son chant, je me dis, putain, pourquoi il n'a pas continué en anglais? Parce que en français, c'est cool, mais ça m'a jamais touché autant que ce qu'il a produit là, quoi. Donc tu vois, après, c'est des sensibilités.
Voilà, c'était Nico Wendt Toussaint à propos de Bill Durham et de Patrick Verbeek.